Alors, cet atelier sur la déprescription, sur prescription et la déprescription chez le sujet âgé a commencé par un petit exposé introductif de moi-même. En fait, j'ai surtout insisté sur la déprescription, enfin, les obstacles à la déprescription par le médecin généraliste en médecine de ville. C'était les références que j'ai choisies. Après, la déprescription en établissement hospitalier ou en EHPAD est tout à fait différente. Donc, il y a eu 4 communications que je vais essayer de vous résumer. Si je ne résume pas bien, les personnes n'ont qu'à protester. Alors, il y avait une communication de Catherine Biroffet, psychiatre, sur la surmédicalisation des personnes âgées. Mais si j'ai bien compris, c'était surtout, elle nous a décrit ce qu'elle a mis en place dans son établissement pour aider à, pour que les médecins d'abord puissent joindre les psychiatres, pour que les différents intervenants puissent savoir quelle était l'ordonnance du patient, c'est ça?
Notamment.
Et après, sur la déprescription, je me souviens plus de ce que tu as dit.
Eh bien, j'avais 4 pistes, donc renforcer les bonnes pratiques sur la prescription. Donc ça, c'est la formation initiale continue et puis d'autres sujets qu'on avait évoqués. Le deuxième point, c'était l'accès à l'information d'historique et des prescriptions. Donc tout ce qu'elle soit dans le lieu d'exercice, dans nos coordinations, marquer le plus de renseignements possible sur nos ordonnances, ou sur des courriers, mais sur les ordonnances, débuter, le arrêter, ce qu'on est en train de faire pour favoriser ça, qu'on ose continuer ou savoir d'où vient l'information. Ensuite, il y a ce numéro d'accès direct pour faciliter que différents confrères, notamment généralistes, éventuellement d'autres, nous contactent et puissent avoir accès à des éléments ou un échange sur un avis, sur le traitement ou autre. Et puis le quatrième point, c'est l'éducation thérapeutique des patients qui se développe et puis qui peut favoriser qu'on ait des ordonnances plus petites si on évoque avec eux. Qui prennent pas et des erreurs qu'ils peuvent faire, on n'a pas compris leur traitement, on ne connaissait pas assez.
Alors la communication était celle de, ensuite, celle de Marie R, qui n'est pas là. Si ? Non ? C'était fragilité des médicaments en population âgée, étude de la polymédication et des prescriptions potentiellement inappropriées. J'avoue, j'ai pas pris de notes parce que je ne savais pas que j'allais faire un compte rendu à ce moment-là. La troisième communication était de Mme Laura Del Rossio Duprat sur ce que j'ai compris après avoir discuté avec elle quand même, elle est là. Oui, par son contrôle. Si j'ai bien compris, elle a fait une étude. Elle n'est pas soignante, elle n'est pas. Elle a fait une étude dans un EHPAD, elle a suivi les infirmières, les médecins, etc., pour essayer de comprendre pourquoi il y avait une très grande inertie dans la déprescription. Et elle en a conclu que c'est, entre autres, que par exemple, il n'y avait pas suffisamment de rôle donné à l'infirmière. L'infirmière n'osait pas prendre des décisions à l'encontre du médecin. Que le pharmacien lui délivrait les médicaments, mais ne jouait pas son rôle pour dire ce médicament est dangereux, il faut l'arrêter, etc. Le médecin coordonnateur ne jouait pas non plus tout à fait son rôle pour dire à ses collègues médecins. Vous devriez déprécier ceci, cela, mais aussi parce qu'il n'osait pas trop le faire, que les réunions qui sont censées se tenir et pour lesquelles les médecins généralistes sont censés être rémunérés pour venir ne se tenaient pas ou ne se tenaient qu'une fois par an. Enfin, tout ça aboutissait à une grande inertie. Alors, un petit peu à l'inverse, une communication sur la révision critique de l'ordonnance médicamenteuse. Chez les patients cette fois-ci hospitalisés en longue durée et qui restent un an, donc c'est vrai qu'on a le temps de voir ce qui se passe et puis de suivre. Et là, dans cette étude, les médecins gériatres, deux médecins gériatres examinent l'ordonnance et au final arrivent à déprescrire 43% à peu près des médicaments. C'est-à-dire qu'on supprime sur 7 à 8 lignes de l'ordonnance, on en supprime 3 ou 4 en moyenne. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un. Ensuite, donc, il y a eu une discussion, le professeur Philippe Arlin, cette discussion, dit qu'il y a une surestimation dans la société et parmi les soignants du rôle du médicament, et une sous-estimation de son risque, ce qui explique jeter les obstacles à la déprescription. Les freins aussi à la description, il y a eu des interventions aussi sur le rôle des pharmaciens de ville, pour dire qu'en général, il a été dit de façon très abrupte, le rôle n'est pas tellement de vendre des vernis à ongles et des couches, mais il devrait être, d'avoir une analyse critique de l'ordonnance et de conseiller éventuellement de prescrire, ce qui ne se fait pas, d'abord peut-être parce qu'ils sont payés à la boîte, deuxièmement parce que ils n'osent pas s'affronter aux médecins. Les médecins supportent très mal qu'un pharmacien leur dise cette prescription ne va pas, pas du tout. Et puis, et quand par hasard ils voient sur l'ordonnance qu'il manque un ou deux médicaments, ils ont plutôt tendance à renvoyer le patient chez le médecin en disant tiens, il a oublié de vous marquer ça. Voilà, ça c'est pour les pharmaciens de ville qui ont été habillés pour l'hiver. Voilà, après les pharmaciens d'EHPAD, alors certains jouent un rôle, notre collègue qu'on va soulever ici, en particulier, voilà, ils essayent de réunir les médecins, de mettre en évidence, par exemple, des prescriptions inappropriées, par exemple, la liste des patients qu'on réveille pour leur donner un hypnotique à l'intérieur. Quelque chose que j'avais au problème. Aussi une intervention de médecin généraliste pour dire que c'est difficile de déprescrire un médicament de quelqu'un qui sort de l'hôpital, par exemple, à 85 ans avec une statine ou avec un traitement de la maladie d'Alzheimer alors qu'il a un stade de la maladie, de toute façon ça ne sert plus à rien. Une autre intervention aussi, parce que dans les études Stop et Start, dans Start, il est dit que les carences de prescription, là où il n'y a pas suffisamment de prescription, c'est les antidépresseurs chez les sujets âgés. Et notre collègue psychiatre m'a fait remarquer que ce n'est pas forcément une erreur de la part du médecin. Le médecin voit un patient qui ne va pas bien, il va lui donner un anxiolytique pendant quelques jours, en pensant qu'il reviendra, puis le patient ne revient pas, et puis finalement il échoue 3 mois ou 6 mois plus tard aux urgences psychiatriques. On s'aperçoit que c'était une dépression, mais voilà, c'est pas forcément parce que le médecin n'a pas fait son boulot. Il y avait aussi, alors dans l'exposé que j'avais fait, j'avais noté, j'avais lu que finalement, les patients qui étaient le plus hostiles à la déprescription, les plus résistants, sont ceux paradoxalement qui faisaient une confiance absolue à leur médecin, une plus grande confiance à leur médecin, alors que d'autres recherchaient plutôt des médecins qui prescrivaient juste. Ceux qui acceptent la déprescription. Et une personne ici présente là-bas a cité une étude du JAMA qui a montré que plus les patients avaient confiance en leur médecin, plus la mortalité était importante. C'est paraît paradoxal, mais rejoint tout à fait cette observation qui relevait de l'étude qui avait fait la Vanguilly des résistances à la déprescription de la part des patients. Voilà, je sais pas, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qui m'a... Voilà, il y avait aussi ce que a souligné Philippe Arlet, c'est-à-dire que dans la relation du pharmacien, du médecin et du patient, il y a la relation « je vous donne quelque chose ». Tout le monde a souligné qu'il était très difficile de terminer une consultation sans donner, en tout cas en France, sans donner une ordonnance et prescrire soit un médicament, soit un médicament, enfin quelque chose, il faut qu'il y ait un lien. Voilà, à peu près tout.
Bon, on va passer au rapport de la...
Est-ce que vous avez parlé de bilan de médication? Vous savez que c'est une nouvelle mission du pharmacien d'officine. Alors c'est intéressant d'en dire deux mots. C'est dans le cadre de la rémunération sur objectif de santé publique et dans le cadre de la refonte des moyens des modes de rémunération du pharmacien. Les pharmaciens vont être rémunérés 60 euros pour faire un bilan de médication personnalisé avec chaque patient. Alors ça concerne les patients de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans avec une ou plusieurs AOD. Et donc, sur le papier, au départ, c'est très bien. On a des bonnes intentions, c'est-à-dire réduire la iatrogénie. La convention signée entre les organisations syndicales de pharmaciens et l'assurance maladie parle de 7500 décès évitables par an chez les personnes âgées en revoyant correctement, en réduisant les ordonnances. Alors, le seul problème qu'il y a, je vois, c'est qu'ils se sont entendus en termes d'objectifs sur un seul point. Je trouve ça désolant. Ils ne vont travailler que sur l'observance. Il n'y a aucun objectif de déprescription. Aucun. Non, non, il faut le savoir. Alors, ils vont toucher 60 euros pour un premier entretien qui va faire le recensement des médicaments, etc. Prix, le bon prix, etc. Et puis un deuxième entretien. Et puis l'année suivante, s'il y a eu un nouveau médicament ou une modification sur l'ordonnance, ils seront payés 30 euros. S'il n'y a pas eu de modification, ils seront payés 20 euros pour un entretien. Voilà, c'est une espèce de paiement à la capitation pour les pharmaciens. Mais alors, si vous avez l'occasion, lisez un petit peu la convention. Il n'y a aucun objectif. La HAS a validé des outils d'aide pour les pharmaciens pour faire ce bilan de médication. Voilà, c'est désolant.